comment on ne met pas trop de soi dans un texte et comment le faire, en mettre assez, je veux dire, pour que ce soit quelque chose qui résonne et qui soit vrai et qui soit authentique, sans tricherie. Mais j'ai l'impression pour l'instant que sans doute mes textes sont trop intenses ou je sais pas. Moi-même, parfois, ils me font un peu peur quand je les relis. Et j'ai peur aussi, du coup, d'être lue. Et que j'ai pas l'impression que, du coup, j'aurai l'énergie pour écrire tout le temps, en tout cas. Et ouais. Et une autre question, comment vous faites, vous, avec quand vous n'êtes pas satisfait d'un texte ou d'un poème ou, comment vous le vivez? Alors, c'est une question un peu vaste, mais ça m'intéresse de voir aussi comment vous l'interprétez. Et puis, bonne nuit.
Salut à tous, c'est Aline. Moi, je m'acharne pas, en fait. Je pense que je le laisse tout simplement tomber parce que je me dis que tout ce qu'on écrit et tout, chaque jour est différente. Donc, ben voilà, il y a certains textes qui sont très bons et qui resteront. Il y en a d'autres qui ne resteront pas et peu importe. On ne peut pas avoir des pépites tous les jours. Et donc, avec ça, je suis assez tranquille. Et puis, par contre, il y a quelque chose que je m'autorise vraiment qui pourrait être... je sais pas, peut-être un point de vue en tout cas personnel, j'allais dire contesté, mais c'est peut-être pas le mot. Si je retrouve des textes qui sont vieux, si je retombe dessus et je fais la même chose au niveau de la peinture, si je vois quelque chose qui me convient pas, je change, je transforme, même si c'est longtemps après. J'hésite pas en fait à transformer, alléger, enlever des phrases, parce que j'ai tendance à écrire beaucoup en quantité et il me faut élaguer beaucoup pour garder l'essentiel. Donc même si c'est longtemps après, je pense que je m'autorise complètement à retravailler les textes.
Salut à toutes et à tous, c'est Marianne. Alors je sacralise pas du tout le premier jet. En fait, je pense que les seules fois où je fais lire ou où je rends de manière plus ou moins publique du premier jet, c'est les ateliers d'écriture de Laura. Mais j'ai tendance, moi je retravaille beaucoup mes textes, alors pas tous, c'est juste les textes où j'estime où je les trouve pas forcément parfaits, bien sûr si je dois les retravailler, mais où j'estime qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans ou que ça correspond à quelque chose que je voulais raconter ou exprimer depuis un certain temps, qui me tenait à cœur. Là je les retravaille et ça peut être un retravail assez profond et assez long. Après le retravail... Faut faire attention à pas non plus trop se flageller. Enfin, comment dire, justement, c'est aussi cette question du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice et de la légitimité. C'est que je crois que moi, à un moment, dans ces relectures aussi, je me jugeais beaucoup. Je jugeais beaucoup de ce que j'avais écrit. Et en fait, faut pas juger ce qu'on a écrit. Faut juste se dire, on l'a écrit comme ça à un moment et on peut l'améliorer, mais faut pas non plus... juger trop personnellement, enfin moi je sais que j'ai cette tendance, même dans ma vie en général, donc c'est pas forcément seulement lié à l'écriture. Dire mais c'est nul, ou c'est ceci, ou c'est cela, et de dire bah non, en fait, à un moment on l'a écrit comme ça, on sait que c'est pas parfait, de toute façon ça peut pas être parfait. Il y a une voie d'amélioration, mais voilà, faut pas trop se juger quoi. Faut pas, et je crois que c'est une remarque que tu as faite, Laura, dans un workshop. Faut être capable d'avoir un regard critique sur ce qu'on a écrit, c'est très important, parce que sinon on s'en tiendra à ce premier jet et on l'améliorera pas. Même si des fois il y a des premiers jets qui sont très bien, qui sont très peu retravaillés d'ailleurs. Mais il faut pas, voilà, être dans le jugement et dans, comme tu disais, dans une forme de rigidité. J'avais retenu ce mot qui m'avait bien parlé.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Margot. Je vous écris depuis ma chambre où vous entendrez peut-être un bruit lointain de violon parce que ma coloc actuelle donne un cours, ou le bruit de moto qui passe dans la rue, c'est au choix. Je voulais d'abord revenir sur quelque chose que tu as dit, Marianne, sur le fait que tu as envoyé un texte cet été et qu'aujourd'hui tu te sentais loin de lui. Moi, ça fait vachement écho ce que tu dis. Je pense que ça m'arrive assez souvent d'avoir des textes publiés et de me dire après coup, ben, c'est plus moi. En tout cas, c'est pas ce que j'écris maintenant. Et pour en avoir parlé avec pas mal de personnes, j'ai l'impression que c'est un sentiment assez partagé et assez normal de sentir que son écriture évolue et que donc on se sent un petit peu étranger à ce qu'on a écrit, et en même temps c'est ok quoi, et ça lui donne une existence propre, et peut-être que ça parlera à d'autres personnes, même si nous aujourd'hui c'est un texte qui nous parle moins. Enfin voilà, moi je crois vraiment que c'est plutôt normal, voire plutôt sain, qu'on se sente loin de nos textes au bout d'un moment. Et donc c'est encore Margot pour répondre à l'autre question de Charlotte qui était qu'est-ce qu'on fait quand on a des textes dont on n'est pas satisfait? Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Aline. Moi, j'ai pas tendance, sur des textes courts en tout cas, quand il s'agit de poésie, parce qu'un roman c'est différent, une forme longue c'est différent. Mais sur la poésie, j'ai tendance à ne pas m'acharner, c'est-à-dire je vais pas essayer de sauver un texte à tout prix si je trouve qu'il est mauvais ou qu'il me parle pas ou qu'il est bancal. Par contre, j'ai vraiment l'image pour moi que si j'écris quelque chose, si quelqu'un écrit quelque chose en règle générale, c'est qu'il y a quelque chose dedans et qu'il y a toujours au moins une idée à garder. Et par contre, du coup, je recycle beaucoup de textes comme ça. Un texte dont je ne suis pas contente, par exemple, que j'ai pas envie d'intégrer à un ensemble plus large, je vais le relire et je vais peut-être prendre un vers, peut-être une phrase, peut-être une image, peut-être une idée sous-jacente qui m'a porté à ce moment-là ou que là, a posteriori, je trouve bonne. Et l'intégrer à quelque chose d'autre. Et je pense que c'est ma manière de. Ouais, de pas juste les enterrer, en fait. De prendre quelque chose d'eux et de les mettre dans autre chose.
Bonsoir tout le monde, c'est Charlotte. Je rentre d'une soirée entre collègues où on a pas mal parlé de littérature. C'était super enrichissant et très très chouette. Je voulais vous remercier pour vos réponses aux questions que j'avais soulevées. Je comprends totalement ce que tu voulais dire, Benjamin. Et je crois que c'est marrant, je crois que c'est toi, Margot, qui en parlais. J'ai lu effectivement Lettre à un jeune poète il y a 2 semaines à peine. C'était une lecture que je repoussais beaucoup parce que je me disais que ça allait me bouleverser. C'est un peu comme Proust, j'ai toujours pas mis le nez dedans parce que je sais que ça va tellement me. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais me foudroyer qu'il faut que ce soit un instant T, un moment, au bon moment. Et je sais que moi, c'est quelque chose. J'ai un petit problème avec cette notion-là de bon moment et je pense que ça se ressent aussi dans comment j'écris. Faut toujours que je me dise, OK, j'écris ça maintenant parce que ça fait sens là maintenant. Et c'est vrai que cette phrase que tu citais du coup, tirée des lettres, un jeune poète de Rilke, je crois qu'en fait, ça m'a fait penser au fait qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur le fait d'écrire, qui sont pas forcément des gens qui écrivent au sens poétique du terme ni rien. Et en fait, il y a une grande romantisation autour de l'écriture. Et que jusque-là, moi, je m'en étais fait quelque chose aussi de, oui, de très romantique, de très d'une discipline un peu, je sais pas comment dire, un art un peu. Quand j'étais petite, quand je pensais à quelqu'un qui écrivait, c'était vraiment cette image de l'écrivain un peu victorien qui prend son temps, qui et je crois qu'en fait, il faut que j'essaie de me détacher personnellement de cette idée-là. Et ça rejoint un peu du coup les questions que je me posais de pourquoi on écrit. Et ben en fait, peut-être qu'il n'y a pas de réponse et que c'est OK. Et que peut-être que l'écrivain ou la personne qui écrit, le poète, c'est pas forcément justement un besoin ou quelque chose qui nous dévore de l'intérieur. En tout cas, pas nécessairement. Et je crois que du coup, vos réponses et le fait d'avoir réfléchi à ça un peu toute la journée aussi, ben en fait, ça m'a pas mal apaisé dans mon rapport du coup à l'écriture, à ce que je devais, ce que je devais, enfin ce que je veux produire, ce que je veux laisser comme trace entre grands guillemets, parce que je suis pas sûre de vouloir. Enfin, peu importe. Tout ça pour dire merci beaucoup pour vos réponses. Et c'est toujours Charlotte. Je voulais vous raconter une anecdote de ma journée. J'ai un cours à l'école. Je suis donc à l'école de la librairie française. Donc c'est une école qui est spécialisée dans les formations libraires. Et j'ai un cours le lundi matin à 9h qui est assez rude, qui est en fait sur les stratégies de présentation de soi et surtout sur la prise de parole en public. Donc en fait, c'est un cours quasiment, c'est presque du théâtre. C'est comment on se présente à l'autre, comment ça touche le langage corporel comme le langage tout court. Et là, mon exercice d'aujourd'hui, c'était lire un texte. Alors, j'étais pas là la dernière fois, donc j'ai pas pu lire un texte de moi. J'ai lu un texte très très beau d'Antonin Artaud que j'ai eu du mal à saisir. C'est pour ça qu'il m'a beaucoup touchée. Et je voulais vous partager ça parce que de réciter un texte à voix haute, tout ça, est-ce que c'est un peu comme ces questions au théâtre de est-ce qu'il faut lire le théâtre ou le jouer? Et c'est rigolo que ça arrive maintenant parce que J'ai lu un de mes textes, enfin le premier jet que j'avais fait pour l'atelier de cette semaine sur le visage, et je l'ai lu à voix haute. Et en fait, je me suis rendu compte que je butais sur tous mes mots et que j'étais incapable de me lire à voix haute, mais que j'étais capable de lire les autres à voix haute. Je ne sais pas vraiment où je vais dans cet audio. En l'espace de quelques jours, je me suis retrouvée avec ces réflexions sur le fait de réciter un texte ou de le déclamer à l'oral face à des gens ou au téléphone, et la différence entre me lire à voix haute et lire quelqu'un d'autre. Lire un texte qui est fait pour être écrit, qui est fait pour être lu, et lire un texte qui peut être déclamé. Et du coup, je m'interrogeais aussi sur comment écrire pour être lu à voix haute. Et je pense que c'est quelque chose que je vais essayer aussi un peu d'investir quand j'aurai un peu le temps. Voilà, c'est un audio qui n'a pas vraiment de but, mais juste une journée assez riche, finalement.
Ma chambre est une chambre de mort, 3 générations, et des inconnus, mais pas beaucoup. Il est mort là où je dors, pas ma chienne. Il est mort sous ma fenêtre, la fenêtre sous laquelle je fais l'amour parfois. Elle est un peu froide, la fenêtre, mais ça remplit le cœur quand il y a du soleil. Je peux pas en vouloir à un objet, je crois. On a vécu les mêmes cycles, la même lumière, à la même heure. Ça devait être différent pour lui, pourtant. Moi en plus, j'ai changé de lit, l'ancien puait le suicide et le deuil. Pendant longtemps, j'ai pas pu changer mes draps, j'avais peur de perdre tes cheveux. Mais ça passe. Alors j'ai changé mon lit de place, j'ai changé de fenêtre, elle est plus grande. T'étais belle dans mon lit avant, mais c'est devenu flippant. Et les tiroirs dessous, ils sont pleins, ils dégueulent de nous. Ça me tord le bide, de ce que t'as oublié, de ce que t'as laissé. Tu t'en fiches des objets, moi non. J'en ai partout, même dans mes plantes. Je me dis, ça ferait du mal à maman si je jetais mes Lego. Alors je les fous dans les plantes, mes plantes. Ils sont bloqués dans la terre, ça me tord le bide aussi de les voir. Elle est beaucoup trop mouillée parce que j'ai peur. C'est pas grave tout ça, en plus ça n'a pas d'odeur. Nana m'a dit, rien n'est grave à part la mort. Elle a raison, un peu. Mais quand il est mort ici, dans ma chambre, la sienne, ça a été... C'était pas si grave. C'était logique, triste, oui, c'est vrai. Depuis, je vole les bougies des églises. Et j'en fous partout. Faut veiller sur mes Legos, sur mon nouveau matelas, sur mes draps propres. Et puis je vois pas où je prierai sinon. Parce que j'ai pas pu prier devant lui, on m'a dit non. Il aurait pas voulu. À l'époque, j'aurais pu tout casser. J'ai dû garder mes chapelets. Maintenant, il y en a partout. Pas pu prier devant toi, j'ai beaucoup prié celle que... j'ai jamais connu. Il y a plein d'espoir dans la cire. Les deux sont brûlants. J'ai toujours perdu mes briquets. C'est pas grave. Les bougies donnent pas chaud. Là, ma chambre est tout le temps fraîche. Très humide. Elle doit pleurer. Plus que moi. J'ai la pièce de la maison qui ressent tout. Elle suinte d'émotions. Plus que moi, parfois. Et tu dirais que c'est pas possible. Parce que je suis toujours plein de tout. Que j'ai beaucoup débordé dans ma chambre et tu le sentais. J'ai tout changé et même ma bibliothèque pourrait tout retenir. Je me cache plus dans ma chambre de mort. C'est dégueu de l'appeler comme ça. J'y ai toujours été bien. Elle a rien de glauque. Je l'ai toujours bien habillée et quand il y a des gens, elle parle de moi. À moi, elle me parle souvent de toi et des fois, ça me fait très mal. J'en veux à ma chambre de t'avoir fait partir, mais je sais que c'est pas elle. Je suis responsable. Mais je suis pas responsable de son humidité. C'est un souci de fondation, ça. Peut-être que j'en suis responsable, ou les générations avant moi. Elle me parle moins de lui ces dernières années, et puis c'est normal. C'est pas à elle de tout me dire, tout le temps. C'est apaisant. Que je dois chercher ailleurs que dans ma chambre de mort.
Ce texte est celui de Charlotte. Je m'apprêtais à le publier dans la revue Miroir, et... j'ai souhaité répondre à ses interrogations et ses doutes en lui offrant et en offrant à tous cette lecture.
Et puis je voulais dire que je trouvais l'idée de lire comme ça à haute voix le texte d'un autre, c'était très émouvant. J'ai pas le temps là, mais ça me donne envie d'aller ouvrir la revue pour lire le texte de Charlotte. Voilà. Donc merci encore Benjamin et puis merci encore à toi Charlotte pour ton texte. Et puis voilà, encore merci tout le monde, quoi, pour tous les mots que vous envoyez, que vous balancez, ça remue bien, quoi. Voilà.
Hello tout le monde, c'est Charlotte. Je m'attendais pas du tout à l'audio Café Benjamin, justement, en lisant mon texte à voix haute. En fait, je me suis pas reconnue du tout. Enfin, j'ai pas reconnu le texte du tout. C'était assez étrange de s'entendre. Je crois que c'est la première fois qu'on lit mon texte à voix haute. Merci, et merci d'ailleurs pour vos messages. Et merci Camille pour ta réponse aussi. Et aussi pour avoir partagé un peu de ton quotidien et de ta vie privée finalement. Et en vrai, ça m'aide à comprendre pas mal de choses et à mieux appréhender pas mal de trucs. Et ouais. Non, c'est rigolo, j'ai l'impression que ça fait quand même peu de temps que ce groupe-là se met en place et qu'il est encore en train de se mettre en place. Et ça m'apporte pas mal de choses. En tout cas, ça nourrit beaucoup de questionnements que j'avais pas forcément formulés. Et je voulais vous en remercier du coup. Merci.
Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la Lanterne, composition Victor Mazzaferra.